Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël et vous nous retrouvez tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. C'est déjà la fin de l'année 2024 pour Biotine. Dernière émission aujourd'hui, on va prendre quelques vacances pour ces fêtes de fin d'année. Hein. C'est un petit plaisir personnel. Et donc, on va encore feuilleter pour cette émission d'une petite heure l'actualité scientifique. Il y a pas mal de choses au niveau de l'éphéméride parce que le 14 décembre, autant il y a des jours où il n'y a rien, j'ai rien à vous dire au niveau de l'éphéméride, en tout cas pas grand chose. Autant là, il y a eu plein de choses qui se sont passées un 14 décembre. Un 14 décembre, il n'y en a pas eu en France en 1582. Du fait de l'adoption du calendrier grégorien, le lendemain du dimanche 9 décembre, c'était le lundi 20 décembre. Donc entre le 10 et le 19, il n'y a pas eu au mois de décembre en 1582. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé le 14 décembre 1582 en France, parce que ce jour-là n'existait pas. Donc voilà, c'est déjà noté. Le 14 décembre 1900 à Berlin, Max Planck présente sa théorie des quantas. Nous n'allons pas, dans cette émission de fin d'année, faire une émission sur les quantas, hein, ou les quantas d'ailleurs, on dit quand ou quanta peut-être, quanta, je vais y arriver, qui sont donc présentés par Max Planck. 14 décembre 1911, Roald Amundsen, qui est un explorateur norvégien et le premier homme connu à atteindre le pôle sud en 1911. En 1940, le plutonium est isolé pour la première fois à l'Université de Californie. En 1962, la sonde américaine Mariner 2 passe à la plus faible distance de Vénus. Elle va la scanner au moyen d'un radiomètre infrarouge, un micro-ondes et un magnétomètre. Nous sommes en 1962 quand même, c'est quand même fascinant. En 1967, en Californie, des chercheurs de l'équipe d'Arthur Kanzberg isolent l'ADN d'un bactériophage. Un bactériophage, c'est quelque part un virus de bactéries. Eh bien, ils ont isolé cet ADN en 1967. En 1994, c'est le début des travaux du barrage des Trois Gorges en Chine sur le Yangtze-Kiang. C'est la création d'une retenue de 600 km de longueur. Il s'agit de la plus grande centrale hydroélectrique au monde par sa puissance installée. Et donc, le début des travaux, c'était en 1994. Pose de la première pierre du viaduc de Millau, c'était le 14 décembre 2001. Et enfin, la sonde chinoise Change 3 se pose sur la Lune en 2013. Les Chinois étaient à la conquête de la Lune il y a plus d'une dizaine d'années. Naissance, le 14 décembre 1909, d'Edward Lowe Tatum, professeur, microbiologiste et biochimiste américain. Il a reçu le prix Nobel de médecine avec notamment George Wells Bedell. Il a découvert avec lui que les gènes agissent en régulant des événements chimiques définis. C'est une vraie découverte, vraiment intéressante. Prix Nobel de médecine en 1958. Décès le 14 décembre 1989 d'Andrei Sakharov, physicien nucléaire soviétique d'origine russe, père de la bombe H soviétique. Sakharov, c'est aussi un nom militant pour les droits de l'homme, liberté civile et la réforme de son pays. Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1975. On se souvient, pour ceux qui ont connu cette époque, de la fin de l'Empire soviétique, de la fin de l'URSS, de Andrei Sakharov. Et il est donc décédé le 14 décembre 1989. Un grand nom, Sakharov. C'est vrai que quand on écoute le nom de Sakharov, ça nous rappelle quand même beaucoup de choses, bien sûr. Notamment dans les années 80, bien sûr. Mais Andrei Sakharov était quand même physicien nucléaire, père de la bombe H soviétique également. Au niveau de l'actualité, dans cette dernière émission de l'année 2024, on va parler de pas mal de choses qui n'ont pas nécessairement un lien entre elles, mais c'est des articles que j'ai pas encore eu le temps d'évoquer. Je me dis, avant la fin de l'année, pour refermer cette page 2024, il faut quand même que j'évoque ces articles. Je trouve qu'il y en avait. Cet article de Futurascience qui nous parle du piège des voitures électriques est assez intéressant. Il évoque cet article de Futurascience, le marché automobile qui connaît une transformation majeure avec, on le voit, l'essor des véhicules électriques. Il y a une récente étude qui a été menée aux États-Unis par S&P Global qui qui met en lumière un contraste saisissant entre les habitudes de renouvellement des propriétaires de voitures électriques et celles des conducteurs de véhicules thermiques. Cette analyse révèle non seulement les dynamiques changeantes du secteur, mais soulève également des questions sur l'avenir de la mobilité et les comportements des consommateurs. Cette étude, elle dévoile en fait un phénomène inattendu. Les propriétaires de voitures électriques renouvellent leurs véhicules tous les 3 à 4 ans en moyenne, tandis que les conducteurs de voitures à essence conservent leurs véhicules pendant à peu près 12 ans. Ce contraste frappant, s'explique par plusieurs facteurs. Une clientèle plus aisée pour les véhicules électriques, l'évolution rapide des technologies dans le secteur électrique et puis la hausse des prix des véhicules tous types confondus. Et donc cette disparité reflète non seulement les différences de pouvoir d'achat entre les deux groupes de consommateurs, mais aussi l'attrait pour l'innovation technologique qui caractérise le marché des voitures électriques. Paradoxalement, alors que les voitures électriques connaissent un cycle de renouvellement rapide, les véhicules à essence voient leur durée de vie s'allonger. Aux États-Unis, le pays où l'automobile occupe bien sûr une place centrale, on observe une augmentation de l'âge moyen des véhicules pour la 6e année consécutive, un pic de 13 ans pour les véhicules personnels et on a plus de 280 millions de véhicules en circulation aux États-Unis. Donc c'est quand même des chiffres assez conséquents. Et cette tendance s'explique en partie par la baisse des ventes de voitures neuves, atteignant leur niveau le plus bas depuis plus d'une décennie. C'est-à-dire que on est à peu près à 14 millions de voitures vendues en 2022. La conjoncture économique joue également un rôle crucial. La baisse des taux d'intérêt et de l'inflation a réduit la demande des consommateurs, particulièrement au second semestre 2022. De plus, les contraintes d'approvisionnement ont contribué à la hausse de l'âge moyen des véhicules, qui rappelait un petit peu une situation qui avait été observée lors de la récession de 2008-2009. Et donc cette étude souligne une tendance intéressante. Il y a de nombreux propriétaires qui optent pour la conservation d'au moins une voiture thermique, même si elle est moins fréquemment utilisée. Cette stratégie offre une assurance pour les trajets longs, qui va pallier ainsi les limitations actuelles des véhicules électriques en termes d'autonomie, bien évidemment. Alors, parallèlement, l'industrie des voitures électriques connaît une évolution constante. Des constructeurs comme Tesla, par exemple, introduisent régulièrement des modèles innovants, ce qui va motiver les acheteurs potentiels à franchir le pas vers l'électrique. Et cette dynamique d'innovation continue alimente le cycle de renouvellement rapide observé dans ce segment. Donc le marché automobile se trouve ainsi à la croisée des chemins entre la longévité croissante des véhicules thermiques et le renouvellement accéléré des voitures électriques, ce qui va refléter les mutations profondes de notre rapport à la mobilité. C'est assez intéressant parce que donc ces voitures électriques elles sont changées 4 fois plus souvent que les voitures à essence, qui est un critère qu'on n'avait pas nécessairement pris en considération. Et cet article de Futura Science, qui relaie donc cette étude menée aux États-Unis, est assez intéressant. On peut supposer que cette tendance allait aussi dans les autres pays occidentaux, bien sûr. Mais voilà, c'est un critère en plus qui est à prendre en considération, bien évidemment. On va parler encore de caisses automatiques. Tiens, je trouvais cet article aussi assez intéressant parce que les caisses automatiques, qui étaient il y a quelques temps saluées un petit peu comme une avancée majeure dans le secteur de la grande distribution, elles font face à un constat amer. Il y a une étude récente qui a été publiée il y a quelques mois qui met en lumière les difficultés rencontrées par les enseignes qui ont massivement adopté cette technologie. Loin des promesses initiales d'efficacité et d'économie, il y a de nombreux supermarchés qui revoient leur stratégie. Ils sont confrontés à des pertes financières et à une insatisfaction croissante des consommateurs. L'introduction des caisses automatiques dans les supermarchés était porteuse de grands espoirs. L'idée semblait au départ simple et assez prometteuse, remplacer plusieurs caissiers par un seul superviseur, tout en offrant aux clients une expérience d'achat plus rapide et autonome. Cependant, la réalité s'est avérée bien différente des attentes initiales. Christopher Andrews, qui est professeur associé et chef de la sociologie à l'université Drew, New Jersey, donc aux États-Unis, souligne « Les magasins voyaient cela comme la prochaine étape, mais ils se rendent compte qu'ils ne font pas d'économie, ils perdent de l'argent. » Et cette déclaration met en lumière le paradoxe auxquels font face de nombreuses enseignes parce que les problèmes rencontrés sont multiples, la lenteur des transactions, l'inefficacité du système, l'augmentation des vols à l'étalage. Et ces difficultés ont conduit plusieurs chaînes de magasins aux États-Unis, au Royaume-Uni, à revoir leur approche et à réduire leur dépendance à ces systèmes automatisés. Face à ces défis, il y a de nombreuses enseignes qui sont en train d'opérer un virage stratégique. Il y a une chaîne de magasins discount américaine qui s'appelle Dollar General qui illustre parfaitement cette tendance. Le responsable de cette entreprise a reconnu devant les investisseurs, je cite, « Nous avons trop compté sur les caisses automatiques dans nos magasins ». Et donc cette prise de conscience s'accompagne d'actions concrètes. Une augmentation du nombre d'employés dans les magasins, un renforcement de la présence humaine dans les zones de caisse et un rééquilibrage entre technologie et services personnalisés. Et ce changement de cap s'explique notamment par des données alarmantes sur les pertes financières. Les détaillants utilisant la technologie de libre-service affichent des taux de pertes supérieurs à la moyenne du secteur, ce qui remet en question la supposée efficacité économique de ces systèmes. Et donc l'accueil des caisses automatiques par les consommateurs s'est avéré plus complexe que prévu. Il y a une enquête qui avait été menée il y a quelques temps auprès de 1000 consommateurs qui révélait des résultats paradoxaux. En essayant le paiement en libre-service, si nous réalisons que nous n'en bénéficions pas, on finira par ne plus l'utiliser. Et cette observation souligne l'importance de l'expérience utilisateur dans l'adoption à long terme de nouvelles technologies. Face à ces défis, l'industrie de la grande distribution semble s'orienter vers une espèce de modèle un peu hybride. C'est-à-dire que les enseignes cherchent à offrir le choix au client entre l'interaction humaine et l'utilisation d'une machine, et cette approche vise à combiner les avantages de l'automatisation avec le côté valeur ajoutée du service personnalisé. Toutefois, les investissements déjà réalisés dans les technologies de libre-service représentent un défi pour de nombreux détaillants. La transition vers ce nouveau modèle nécessite un équilibre délicat entre l'optimisation des ressources existantes et l'adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs. L'échec relatif des caisses automatiques dans les supermarchés marque un tournant dans l'approche de la technologie dans le commerce de détail. En fait, il souligne un peu l'importance de considérer non seulement l'efficacité opérationnelle, mais aussi l'expérience client et les implications sociales des innovations technologiques. C'est une étude assez intéressante sur ces caisses automatiques qui ont pullulé pendant un bon bout de temps. Et là, peut-être qu'on est sur une tendance qui s'inverse apparemment. Qu'en pensez-vous ? Mais écoutez, je vous propose un titre musical pour réfléchir à cette question. Vous êtes bien sur Graphite ? Qu'est-ce qu'on est bien sur Graphite ?
Seu beijo, sou fã. Aquecer o meu pé no inverno europeu, dividir o coração. Me entregar à fadiga, entrar no seu pijama, suas plantas regar. Ver a chuva de dentro e pastorar o vento que é só pra lá fora. Anéis, grandes salões, hotéis, tanto desperdiçar. Pra que cê tá na moda, andar de bicicleta pra não pedalar? Aurora começando, no nariz chegando, cheirinho da manhã. O teu olhar siesta, teu cabelo em festa, sua sonolência. No meu corpo, teu suor.
largo mão do emprego, fruto lindo será. Não tenho pressa.
Dos Sesmanias de Flavia Coelho sur l'antenne de Graphite. Je pensais que c'était fini. C'est doux, c'est... Ah, c'est, ça faisait du bien, ça. Je... Non, pas vous. Oui, oh, vous devenez insensible. Vous êtes de pire en pire. Ces auditeurs sont de pire en pire. Allez, quelques petites brèves. Ça, c'est intéressant. La NASA aurait accidentellement détruit des preuves de vie sur Mars. Alors ça, quand on voit un article comme ça, on est obligé de cliquer dessus pour en savoir un petit peu plus. Parce que trouver des traces de vie passée ou présente sur Mars, c'est pour cette raison particulière que la NASA a envoyé le rover Perseverance sur Mars. Cela fait presque 4 ans maintenant qu'il arpente le cratère J0 dans ce but. Et régulièrement, il renvoie des données porteuses d'espoir dont les chercheurs et les médias se saisissent avec enthousiasme. Cette fois, c'est le commentaire qui est publié dans la revue Nature Astronomy par un astrobiologiste de l'Université technique de Berlin. Il s'appelle Dirk Tschuze-Makusch, qui attire l'attention à son commentaire parce qu'il évoque la possibilité que nous ayons pu être à rien de toucher au but dès le milieu des années 1970, mais que par inadvertance, la NASA aurait alors détruit les traces de vie cachées dans les échantillons. Rappelons en effet qu'en 1976, les deux atterrisseurs vikings, les tout premiers à se poser sur Mars, avaient pour objectif, entre autres, de réaliser quelques expériences imaginées pour trouver des, ce qu'on appelle des biosignatures, donc des traces de vie présentes ou passées dans les roches de Mars. Comprenez, trouver des traces de molécules qui pourraient indiquer la présence d'une forme de vie extraterrestre. Il y a différents types d'expériences qui avaient été mises en œuvre et les seules expériences directes de ce genre menées sur une autre planète jusqu'ici. Mais avec le recul, des doutes ont été émis par des chercheurs quant à leur pertinence. L'une d'elles, par exemple, supposait un chauffage des échantillons qui aurait très bien pu être fatal à la vie quand ceci aurait pu cacher, que ceci aurait pu cacher en fait. Pourtant, une expérience en particulier a donné un résultat positif pour une potentielle activité microbienne dans les échantillons. Les scientifiques en ont longtemps débattu et pour arriver à la conclusion qu'il devait s'agir là d'un faux positif. Et donc, aujourd'hui, ce chercheur allemand Dirk Tschuze-Makusch envisage une autre option. Selon lui, Viking, c'est ces atterrisseurs, a peut-être bel et bien découvert des signes de vie sur Mars, mais cette vie n'a pas survécu à l'eau qui a été utilisée pour mener l'expérience. Pour comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, les astrobiologistes imaginaient encore que la vie avait besoin d'eau pour prospérer, de beaucoup d'eau. Or, les chercheurs l'ont appris plus récemment, la vie peut trouver son chemin dans un environnement sec et même très sec. Alors que se passe-t-il si on versait de l'eau sur des organismes martiens adaptés à la sécheresse? Les scientifiques disent pompeusement qu'ils se retrouveraient hyper hydratés. En réalité, cela reviendrait à les noyer. C'est ce qu'explique donc Dirk Tschuze-Makusch dans son commentaire. Pour preuve, il avance la mésaventure vécue par les bactéries indigènes du désert d'Atacama au Chili, qu'il connaît bien pour les avoir beaucoup étudiées, un des endroits les plus arides du monde, des bactéries dont 80% ont déjà été tuées par des pluies torrentielles. Et il va pousser sa réflexion un peu plus loin. L'astrobiologiste suggère que Mars pourrait bien abriter une forme de vie adaptée aux conditions sèches qui y règnent. Dans ce cas, plutôt que de suivre l'eau qui est la stratégie adoptée par la NASA depuis le début de sa quête de vie sur Mars, nous devrions, dit-il, penser à suivre également d'autres composés, comme des sels hygroscopiques en particulier, comme le chlorure de sodium. Alors, le chlorure de sodium, c'est en clair notre sel que l'on a à table. Hein. Ça a été trouvé sur Mars également. Et parce qu'il considère que dans les environnements hyper arides, la vie peut tirer de l'eau, de l'humidité de l'atmosphère grâce à ce type de sel. Donc son explication, c'est que au lieu de suivre de l'eau et de se dire s'il y a de l'eau, il y a de la vie, pourrait-être suivre autre chose, et donc l'hypothèse de ces fameux sel. Mais ceci, comme le reste, ça demeure de la théorie. Et ce que Dirk Schultz-Makuch souhaite surtout, maintenant que nos connaissances de l'environnement martien ont bien évolué depuis, c'est la mise en œuvre d'une mission vers Mars qui embarquerait plusieurs moyens de détection de la vie indépendants des uns des autres, parce qu'il existe de nombreuses manières de la rechercher. Alors seulement, estime-t-il, pourrions-nous arriver à une conclusion convaincante. C'est assez intéressant cet article parce que, quelque part, il apporte de nouvelles pistes qui seraient intéressantes de suivre, bien évidemment. Il n'y a pas eu nécessairement encore beaucoup de commentaires sur cet aspect-là, mais effectivement, ça peut être une occasion justement de pouvoir essayer de... de se dire, tiens, et si on cherchait telle ou telle piste, pourquoi pas ? À suivre, bien sûr. Dans Science et Avenir, encore les petites brèves, hein, tout au long de l'année, je vous donne quelques petites brèves qui sont évoquées dans Science et Avenir. La première concernant cette étude de l'université de Yangzhou en Chine, le risque de dépression, de maladies neurodégénératives ou d'AVC chute en pratiquant une activité physique modérée et intense, au moins 2h30 par semaine, et cela même si elle est concentrée sur le week-end. C'est ce que montre une étude épidémiologique qui a suivi sur 10 ans la santé de 75 000 personnes dont le degré d'activité physique était renseigné avec précision grâce à un accéléromètre qu'on avait mis au niveau des poignets. C'est assez intéressant cette étude parce qu'elle est sur une durée quand même assez conséquente, 10 ans. Elle est sur un nombre moyen de 75 000 personnes, qui n'est pas faramineux, mais enfin qui peut être intéressant. Et donc, ça montre que le sport du week-end aurait un effet protecteur. C'est l'étude donc qui a été montrée par cette université de Yangzhou, en Chine. Autre information concernant des momies. Cette substance blanche assez particulière qui est apposée sur certaines momies âgées de 3500 ans du cimetière de Xiaowei, c'est toujours en Chine, nous sommes au nord-ouest de la Chine, cette substance, c'est du fromage kéfir, et c'est le plus vieux morceau de fromage du monde, même s'il existe des traces de production plus anciennes. Des analyses de l'ADN ont permis d'identifier du lait fermenté de vaches et de chèvres. Surtout, les scientifiques ont trouvé des bactéries et des levures qui sont encore aujourd'hui constitutives des grains de kéfir, hein, ces petits agrégats utilisés pour ensemencer le lait et les jus de fruits. Et donc l'analyse des gènes d'un ferment indique que celui-ci a évolué au fil des millénaires pour devenir plus efficace et même mieux toléré par les humains. Il en existe deux souches, une originaire du Caucase, qui est la plus utilisée de nos jours, et l'autre du Tibet, qui est plus proche de celle des momies. Cela signifie que la culture du kéfir a dû émerger dans deux foyers indépendants. C'est ce que révèlent ces momies sur lesquelles on a donc pratiqué des tests génétiques et notamment un séquençage génétique de 3 morceaux de fromage découverts sur des momies vieilles de 3500 ans, ce qui permet justement de comprendre un petit peu mieux le secret du kéfir. Ça, c'est intéressant aussi, on pouvait lire ça dans Science et Avenir. Allez, comme c'est la dernière émission de l'année, je me dis, on va écouter un petit peu plus de musique, ça va nous faire plaisir aussi. On va écouter Tina Riven sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Nemo hartem dam ufanar tainoma. Nemo hartem dam ufanar tainoma.
Nemo hartem dam ufanar tainoma.
نغمة يدنتي هالإيمان كنا ونغمة يدنتي هالإيمان
اللي مهاتم دا مفنرتي نومان اللي مهاتم دا
مفنرتي نومان حرام
C'était Tina Riven sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine pour cette dernière émission de l'année 2024. On continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique avec pas mal de sujets que je n'ai pas eu le temps d'évoquer ces dernières semaines. Alors déjà au niveau de la CIA, tiens on va parler de la CIA. C'est pas souvent qu'on parle de la CIA dans cette émission, mais il y a une question qui se pose, comment réduire toute latence pour obtenir des données intéressantes quand on est sur le théâtre des opérations. Il y a une entreprise spécialisée dans l'industrie de la défense qui s'appelle Northrop Grumman, entreprise américaine qui a dévoilé son système de data center aérien parce que c'est devenu la priorité hein, disposer des informations en temps réel afin de mieux anticiper les mouvements de troupes et de déterminer la position la plus précise d'une cible mobile pour un tir de missile, de croisière ou d'artillerie. Le problème, c'est que la circulation et le traitement des données sont parfois trop longs et que leur accès est trop compliqué. Donc, l'utilisation d'un data center aérien a été proposée pour court-circuiter ces latences en traitant au plus près les données reçues, y compris celles captées par satellite. Donc, ce système qui s'appelle DSAT pour Deep Sensing and Targeting, a déjà été testé une première fois lors d'un exercice militaire qui a duré 2 semaines. Et donc l'entreprise a indiqué que ce DSAT est parvenu à traiter les données provenant à la fois de capteurs aériens, de satellites militaires, de satellites commerciaux. Hein, plusieurs constellations satellites privées sont sous contrat avec le Pentagone. Et donc ce système sur support aérien permet notamment de garder le contact avec les satellites de renseignement là où les stations de réception au sol ne sont plus capables de le faire. Donc la défense est également intéressée par l'usage de data centers en orbite afin de pouvoir optimiser le traitement de de la donnée ainsi que son transfert au sol. Sur la Lune, l'utilisation de data centers est également un sujet abordé car il permettrait d'économiser les échanges de données entre la surface de la Lune et la Terre. Un prototype de data center a déjà été envoyé sur la Lune, mais donc voilà, on est sur un système aérien pour collecter et traiter en temps réel les données récoltées par des satellites, donc un data center pour la CIA au niveau du renseignement américain. Pourquoi pas, même les films de science-fiction n'avaient même pas pensé à ça, voyez-vous. Comme on parle un petit peu de ces nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, la question est de savoir si l'intelligence artificielle est-elle douée de conscience ? C'est une question épineuse de savoir si cette intelligence artificielle est d'une certaine façon en vie, qui pourrait se transformer en véritable débat philosophique et éthique, et ça déchire un peu la société. C'est en tout cas le point de vue de Jonathan Birch, professeur de philosophie à l'école londonienne d'économie. C'est dans un entretien avec le journal The Guardian. L'interview, en fait, elle fait suite à un plaidoyer pour le bien-être de l'intelligence artificielle publié plus tôt, il y a quelques semaines, dont Jonathan Birch était l'un des auteurs. En fait, il prédit une probabilité élevée que l'intelligence artificielle accédera à ce qu'on appelle la sentience d'ici 2035. Il y a une autre société qui s'appelle Anthropic qui a d'ailleurs engagé en septembre dernier son premier employé dans un poste centré sur le bien-être de l'intelligence artificielle. Cela représente une nouvelle tendance de fond qui pourrait diviser la société en deux camps. Et donc Jonathan Birch s'inquiète de l'apparition de grandes fractures sociétales qui pourraient conduire à des sous-cultures qui se considèrent mutuellement comme faisant d'énormes erreurs. D'un côté, ceux qui voient l'intelligence artificielle comme un simple outil, une accumulation d'algorithmes sans plus de conscience qu'un tableau Excel, quelque part. Et de l'autre, une population qui s'oppose à l'exploitation d'une forme de vie artificielle. Et les premiers signes du phénomène sont déjà là. En février dernier, il y a un adolescent qui s'est suicidé après être devenu accro à un chatbot qui, selon sa mère, l'a encouragé dans son acte. C'est quand même fascinant. Quand je dis fascinant... Terrifiant, c'est le mot que j'ai cherché. C'est pas fascinant, c'est terrifiant. Dès 2022, il y a un ingénieur chez Google qui a été écarté après avoir exprimé publiquement son inquiétude que le grand modèle de langage qui est utilisé avait atteint un niveau de conscience et était capable d'éprouver des émotions. Parle d'intelligence artificielle. Avec ses collègues auteurs du plaidoyer, eh bien le professeur de philosophie Jonathan Birch voudrait voir les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle prendre en compte la possibilité d'une intelligence artificielle qui accède à la sentience. Ils veulent la mise en place d'une procédure pour évaluer leur système à la recherche de tout signe de conscience et préparer un encadrement pour une approche éthique de l'intelligence artificielle le cas échéant. Mais cela ne répond pas à la question de savoir comment évaluer l'intelligence artificielle pour déterminer si elle est douée de conscience ou s'il s'agit juste d'une simulation, bien sûr. Mais c'est un vrai sujet, hein. Je veux dire, depuis quelques mois, on parle de l'intelligence artificielle, bien sûr sur ses applications concrètes et utiles, mais on est maintenant sur des phases, sur des étapes qui prêtent vraiment... pose questions et les questions on les a et pour l'instant on n'a pas nécessairement de grands débats sur ces sujets-là, mais l'idée d'une intelligence artificielle consciente divisera la société, c'est ce que prédit donc ce philosophe. Je pense qu'on aura la réponse assez rapidement, hein, de toute façon, vu la progression faramineuse de ces intelligences artificielles. C'était la COP29. Pour comprendre les mécanismes qui régissent le climat, c'est donc l'une des missions de la tournée du climat et de la biodiversité. C'est une exposition itinérante qui se déplace à travers toute la France. Donc vous pouvez vous renseigner pour voir si elle est près de chez vous et pouvoir la visiter. Cette exposition, elle présente des faits assez étonnants. Par exemple, l'alternance entre périodes chaudes et glaciaires, elles n'ont eu de cesse d'alterner au cours des 3 derniers millions d'années. Et environ tous les 100 000 ans, la variation de la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil a entraîné de grands bouleversements. La dernière période glaciaire remonte à environ 21 000 ans. Il y a des fluctuations climatiques à travers les âges. C'est-à-dire que la zone sur laquelle est construite la ville de Paris a subi d'énormes fluctuations climatique. Il y a 47 millions d'années, Paris était une zone humide entre la mer et les forêts tropicales avec des crocodiles. La température moyenne annuelle était supérieure d'environ 7 degrés à celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a 25 000 ans, par contre, Paris était une toundra avec une température moyenne, cette fois-ci, inférieure de 6 degrés à celle de notre époque. Donc l'Europe, elle est remplie de rennes à ce moment-là, de mammouths, et la calotte glaciaire s'arrêtait au nord de Londres. Donc ces fluctuations climatiques, elles ont toujours existé. La différence de ce que l'on voit au moment, c'est l'accélération, en fait, de ces fluctuations. Il y a aussi l'influence des éruptions volcaniques, influence énorme sur le climat, le nombre, le type d'éruption, la nature exacte de ce que les volcans rejettent dans l'atmosphère, ça peut réchauffer le climat ou bien le refroidir. Certains volcans ont une influence durable sur le climat, comme le volcan indonésien Tambora en 1815, qui a refroidi le climat pendant plusieurs années. Enfin, ce réchauffement climatique, il est totalement inédit par sa rapidité. Le climat actuel est le plus chaud depuis environ 125 000 ans. Il progresse à grande vitesse en raison des émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. C'est le rythme du réchauffement climatique contemporain qui est inédit. Pas le fait que le climat se réchauffe, c'est bien le rythme. Le climat a déjà été bien plus chaud dans le passé, mais à une époque pendant laquelle le nombre d'espèces présentes était très réduit. Donc c'est l'exposition de la tournée du climat et de la biodiversité qui se visite également en ligne de manière totalement virtuelle. Donc vous pouvez consulter le site de cette exposition, vraiment intéressante parce que ça nous permet un petit peu de recontextualiser tout cela et de mieux comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Allez, encore un peu de musique, hein. Oui, mais ça va être ça aujourd'hui. Alternance de musique, c'est comme le climat, quoi. Alternance plus rapide de musique et de science. Allez, on écoute Laura K1 sur l'antenne Graphite.
vois derrière le masque, tu vois derrière mes yeux, tu vois même le feu. Je sais lire ton visage, que tout le monde mieux, c'est le tien que je veux.
Les astres, c'était Laura Klein sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Tout au long de l'année, nous avons feuilleté la revue de presse de l'actualité scientifique. Et pendant que vous étiez en train d'apprécier ce titre de Laura Klein, j'étais en train de faire un tri dans mes articles. Il faudrait qu'un jour je prenne une photo et que je montre ça. J'ai plein d'articles un peu partout. Je ne sais plus lesquels je dois essayer d'évoquer avant la fin de cette émission et avant la fin de cette dernière émission de l'année 2024. J'avais envie de parler du lithium. Ce lithium qui est partout, c'est l'enfant chéri bien sûr de la transition énergétique. Il demeure pourtant une ressource minière dont l'extraction est coûteuse, tant sur le plan économique qu'écologique. Reste que sa demande pourrait augmenter de 400% en raison des initiatives de décarbonation. Et aux États-Unis, il est considéré comme une ressource stratégique indispensable à l'économie. Et bien ça tombe bien, puisque des chercheurs ont révélé, il y a quelques semaines dans la revue Nature, avoir découvert une source vraiment importante de lithium dans les eaux usées issues des opérations de fracturation hydraulique dans la formation du Markelus. C'est une couche géologique et ça se passe en Pennsylvanie. Décidément, la Pennsylvanie, on en aura parlé cette année au niveau des États-Unis, pas qu'au niveau électoral, mais aussi au niveau de cette grande réserve de lithium. Il y a eu des... Dans cette zone-là, je vais y arriver, excusez-moi, il y a eu par le passé des cendres volcaniques qui se sont transformées et elles ont libéré du lithium dans les liquides qui se trouvent à l'intérieur de ces roches. De quoi permettre à la Pennsylvanie de produire environ plus de 1100 tonnes de lithium par an, soit presque 40% de la consommation domestique actuelle, à condition, bien sûr, que des techniques d'extraction optimisées soient employées, ce qui devrait dépendre de la variabilité régionale des compositions chimiques et des volumes d'eau produits. Alors, pas de quoi sauter de joie cependant, compte tenu des défis environnementaux soulevés par l'extraction du lithium, notamment ce qui concerne l'empreinte liée au traitement des eaux et du transport. Actuellement, 85% des eaux produites sont recyclées pour des opérations de fracturation et l'ajout d'une extraction de lithium pourrait nécessiter une infrastructure supplémentaire et accroître les déchets solides, sans compter la faible concentration en lithium de certaines régions qui pourrait rendre l'extraction coûteuse énergivore avec un impact environnemental accru. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Une source substantielle de lithium vient d'être découverte donc sur le territoire américain, alors que le pays dépend essentiellement des importations pour l'utilisation de ce minéral. Donc, ça va susciter quelques convoitises, peut-être, bien évidemment. Ça va pas rester comme ça, à mon avis. On essaiera de suivre, bien sûr, cette information. Alors, comment... vous écoutez mes feuilles, c'est vrai que j'en ai vraiment partout. Comment ralentir le vieillissement jusqu'à 6 ans ? Eh bien, des scientifiques pourraient trouver la réponse. C'est une étude qui a été présentée il y a déjà quelques mois lors de la conférence de l'American Earth Association. C'était à Philadelphie. En fait, cette étude a révélé des résultats prometteurs sur le ralentissement du vieillissement. Les chercheurs ont identifié 8 mesures de santé cardiovasculaire qui peuvent ralentir le processus de vieillissement biologique de 6 ans si, bien sûr, ces mesures sont suivies. Cette découverte offre une nouvelle perspective sur la manière dont nous pouvons influencer notre longévité et maintenir une bonne qualité de vie à long terme. Alors, l'étude s'appuie sur un outil d'évaluation de la santé qui définit la santé cardiaque en se basant sur des mesures liées au mode de vie et sur des marqueurs de santé. Alors, les 8 piliers essentiels, ce sont adopter une alimentation saine, pratiquer une activité physique régulière, très bien, arrêter de fumer, d'accord, obtenir un sommeil de qualité, pourquoi pas, maintenir un poids santé, on va essayer, contrôler le taux de cholestérol, bien sûr, surveiller la glycémie évidemment et gérer la pression artérielle. Alors ces mesures, lorsqu'elles sont suivies de manière cohérente, elles peuvent favoriser une excellente santé cardiovasculaire et par la suite ralentir le rythme du vieillissement biologique. Alors pour mesurer l'âge biologique. Les chercheurs ont examiné le métabolisme des participants, leur fonction organique, le niveau d'inflammation. Et en fait, on peut avoir une différence entre l'âge biologique d'une personne et son âge réel. C'est un écart positif, eh bien, ça indique un vieillissement biologique plus rapide. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vieillir beaucoup plus vite que l'âge qu'ils ont en réalité. Cette différence, elle peut se calculer. Et l'auteur principal de l'étude, qui s'appelle le docteur Noor Makarem, il travaille à l'Université de Columbia aux États-Unis, il souligne un aspect crucial de leur découverte. Nous avons constaté une association dose dépendante. À mesure que la santé cardiaque s'améliore, le vieillissement biologique ralentit. Donc, amélioration de la santé cardiaque, ralentissement du vieillissement biologique. Il fait l'association entre les deux. Cette relation linéaire implique que même de petites améliorations dans ces fameuses formules ou mesures à adopter, eh bien, ça peut avoir un impact positif sur le vieillissement. Et donc, jamais trop tard pour commencer à adopter ces habitudes saines, quel que soit l'âge ou quel que soit l'état de santé actuel. Cette étude, elle offre un peu une feuille de route concrète pour atteindre cet objectif. En adoptant donc ces 8 mesures, non seulement nous pouvons potentiellement ralentir notre vieillissement biologique, mais nous améliorons également notre qualité de vie globale. Il s'agit d'une méthode, d'une approche qui va au-delà de la simple prolongation de la vie. En fait, l'idée, ça va être de maintenir une bonne santé tout au long de celle-ci. C'est un petit peu l'objectif en fait, que l'on souhaite atteindre. Donc ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la gérontologie et de la médecine préventive. Et ces résultats soulignent l'importance de l'adoption précoce de modes de vie sains et de la prévention des maladies cardiovasculaires pour optimiser notre longévité et notre bien-être. Donc voilà, vous avez les 8 modèles. Bon, y a pas de surprise, hein, quelque part, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des résultats scientifiques qui vont corroborer un petit peu ce que l'on souhaite mettre en place, bien évidemment. Allez, on écoute un dernier titre, hein, dans cette émission. Et puis, on se dira au revoir et on se dira bonne année et bientôt, peut-être. Allez, on va écouter Junior sur l'antenne de Graphite. Biotine, l'émission d'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoute sur internet. Allez, c'est à toi, Junior. En fumée, c'était Junior sur l'antenne de Graphite. On nous a dit justement qu'il fallait plus fumer là pour avoir un ralentissement du vieillissement biologique. Junior ne fait pas ce qu'on a dit, c'est dommage. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Deux petites brèves avant de nous quitter qui concernent nos animaux. Ben oui, parce qu'il faut quand même qu'on termine avec les animaux. On va déjà parler du chien et on va parler du couplage neuronal. C'est un phénomène assez connu entre êtres humains, entre une mère et son bébé par exemple. Lorsqu'ils se regardent, leur cerveau entre pour ainsi dire en résonance. Ils se synchronisent. Le phénomène est aussi déjà été observé entre des souris ou entre des primates. Un lien qui permet probablement de donner lieu à des comportements complexes comme l'apprentissage ou le travail en équipe. Et bien aujourd'hui, des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences rapportent dans la revue Advances Science, ils ont observé pour la toute première fois un couplage neuronal entre des individus de deux espèces différentes, et en l'occurrence ici entre l'être humain et le chien. Pour ce faire, ils ont équipé des volontaires de casques qui enregistrent l'activité cérébrale, donc des casques sur des humains et des casques sur des chiens, et notamment des beagles, le tout de manière non invasive, donc on ne leur a pas fait mal. Mais on a enregistré des données lorsque les chiens et les humains étaient séparés, lorsqu'ils étaient en présence les uns des autres, mais avec l'interdiction de se regarder, et enfin lorsqu'ils étaient autorisés à interagir. Résultat, lorsque les chiens et les humains se regardaient ou que les chiens étaient caressés, leurs signaux cérébraux se synchronisaient. Plus encore, une fois que les chiens et les humains se sont familiarisés les uns avec les autres au cours des 5 jours de l'étude, comme cela se produit aussi entre humains, le couplage neuronal est plus intense entre personnes proches. Même s'il reste beaucoup à comprendre sur le phénomène, les chercheurs suggèrent qu'il puisse être lié au fait que nous partageons notre temps et nos espaces avec les chiens depuis très longtemps. Ainsi, regarder nos chiens dans les yeux, ça pourrait, par couplage neuronal, renforcer la confiance que nous avons l'un en l'autre et éviter même quelques comportements indésirables. Donc voilà, on a donc des scientifiques qui révèlent que notre cerveau peut se connecter avec celui de notre chien. Eh bien écoutez, c'était intéressant de savoir ça et que la science nous apporte quelque chose de concret par rapport à ce qu'on avait peut-être ressenti. Et puis on terminera avec les chats et l'hiver qui est là. Avec lui, son lot de préoccupations pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Si les chats semblent naturellement armés contre le froid grâce à leur pelage, ils ne sont pas pour autant invincibles face aux basses températures. Et donc comprendre les seuils critiques et les signes d'alerte est essentiel pour préserver la santé de nos compagnons à quatre pattes durant la saison froide. Donc les chats, ce sont des animaux thermorégulateurs remarquables. Leur température corporelle normale, c'est entre 37 et 38 degrés Celsius. Cette capacité à maintenir une chaleur interne stable leur permet de s'adapter à différentes conditions climatiques. D'un autre côté, il existe des limites à ne pas dépasser pour leur bien-être. Alors, en règle générale, les chats se sentent à l'aise dans un environnement dont la température ambiante se situe entre 20 et 25 degrés. C'est dans cette plage qu'ils peuvent vaquer à leurs occupations sans dépenser d'énergie excessive pour réguler leur température corporelle. Lorsque la température extérieure chute en dessous de 5 degrés, les chats commencent à ressentir ressentir les effets néfastes du froid sur leur organisme, il est important de reconnaître les signes d'une hyperthermie légère qui se manifeste lorsque la température corporelle du chat descend entre 35 et 37 degrés. Les symptômes à surveiller, ce sont des frissons, une recherche active de sources de chaleur, des extrémités froides au niveau des oreilles, au niveau des coussinets, une léthargie inhabituelle et une respiration ralentie. Si la température corporelle du chat chute dangereusement autour de 32 degrés, on parle alors d'hypothermie sévère et cette situation va requérir une intervention vétérinaire immédiate parce qu'elle peut être fatale pour l'animal. Donc pour s'assurer le bien-être de votre chat pendant la saison froide, voici quelques recommandations. Un abri chaud et sec si le chat est à l'extérieur. Limiter les sorties nocturnes lorsque les températures sont particulièrement basses. Surveiller l'état des coussinets du chat qui peuvent être irrités notamment par le sel de déneigement. Augmenter légèrement les rations alimentaires pour compenser la dépense énergétique accrue. Et enfin, proposer des points de couchage douillés et surélevés à l'intérieur de la maison. En prenant ces précautions et en restant attentif aux signes de détresse, eh bien vous allez permettre à votre compagnon de traverser l'hiver en toute sérénité. N'oubliez pas que chaque chat est unique, hein. Il faut observer son comportement, il faut adapter vos soins en conséquence pour lui offrir le meilleur confort possible, quelle que soit la température extérieure, bien sûr. Voilà, il fallait qu'on termine avec les animaux. On n'a pas beaucoup parlé des animaux hein, dans ces dernières émissions, je trouve. Donc, il fallait terminer cette année 2024 avec les animaux, bien sûr, qui nous accompagnent, bien évidemment. C'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique. J'étais ravi de vous avoir présenté toutes ces émissions tout au long de cette année 2024. Ça a été assez dense, hein, ces émissions. C'est de plus en plus dense parce qu'il y a de plus en plus d'actualités à évoquer sur des sujets à la fois complexes mais qui concernent aussi notre quotidien, bien évidemment. C'est le but de cette émission. J'étais ravi donc de vous avoir accompagné pendant toute cette année 2024. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je souhaite de passer du bon temps, d'être heureux. On se retrouve l'année prochaine, 2025. Et là encore, je pense que nous allons être passionnés par les découvertes scientifiques qui nous attendent l'année prochaine, que ça concerne l'espace, les technologies, la médecine, et puis notre vie quotidienne, bien évidemment. Et puis aussi peut-être des informations parfois un peu loufoques qu'on évoque aussi dans cette émission. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. Et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt. Au revoir.